Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Pédis,
Priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en sommes sur les polycopies à la page 33. Saint Matthieu chapitre 9. Bon, je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant et qui m'écoutent sur internet, donc il y a maintenant 6 retraites qui sont organisées, prêchées par votre serviteur au mois de l'année prochaine, donc pour l'année 2019. Une en février, une en mars, une en avril pour la semaine sainte qui est pleine, une en mai, une en septembre et une en octobre. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Hein, vous avez papier d'inscription sur la page d'accueil du site. Donc n'hésitez pas à téléphoner si vous avez un renseignement sur ces retraites. Encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que je ne peux pas prendre plus de 6 personnes par retraite. Alors nous en sommes à la page 33, verset 9. Chapitre 9, versets 23 à 26. Donc, nous venons d'assister au deuxième miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité 3 morts. Donc, la fille du chef de la synagogue, le fils de la veuve de Naïm et Lazare. Bon. Toute la tradition nous dit qu'il n'est pas impossible que notre Seigneur ait ressuscité d'autres personnes. Il y en a 3 dont il est parlé dans l'évangile. Et tout n'est pas dans l'évangile. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de la synagogue et qu'il eut vu les joueurs de flûte et une foule bruyante, il dit « Retirez-vous, car cette jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Lorsque la foule eut été renvoyée, il rentra et prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Et le bruit s'est répandu dans tout le pays. Donc c'est un passage très important. Nous allons voir que les pères de l'Église, il y a certains points, on voit très bien dans l'Évangile, dans les Évangiles, certains points sur lesquels les pères de l'Église insistent davantage. Par exemple, un exemple classique, c'est la parabole du bon samaritain. On voit les pères ont écrit des pages et des pages sur ce sujet-là. Mais là, c'est pareil. Les pères ont beaucoup été frappés, tous, par les différences qui existent entre ces 3 résurrections et ont cherché à interpréter symboliquement, allégoriquement, anthropologiquement ou analogiquement, on cherchait à comprendre pourquoi il y avait ces différences dans les 3 résurrections. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit rien sans raison. Il ne parlait pas comme nous, on parle pour rien dire. Notre Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas pour rien dire et les saints non plus. Quand les saints parlent, ils vont directement droit au sujet. Donc je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, donc on va voir ça un peu plus tard. Dans ce cours, donc les pères ont remarqué qu'il y a des différences. La petite fille qui va être ressuscitée, la fille du chef de la synagogue, est toujours dans son lit, sur son lit mortuaire. Elle n'est pas sortie de sa maison. Le fils de la veuve de Naïm, lui, est déjà sorti. Il a été mis dans le cercueil et il est porté au cimetière. Il est sur la route qui mène au cimetière. Et Saint Lazare, donc le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, lui est déjà enterré dans le tombeau et son corps est déjà en décomposition. Donc on va voir avec les pères ce que signifient justement ces différences. Alors, que veut dire d'abord, que représente cette foule bruyante? Bon, c'est des choses qu'on n'est pas habitué ici en Europe. D'ailleurs, c'est pas un mal parce que c'est toujours quelque chose d'assez pénible. Dans certains pays, les enterrements sont extrêmement bruyants. J'ai vu ça en Amérique latine. Dans les pays, surtout dans les parties très pauvres d'Amérique latine, chez les Indiens par exemple, du Guatemala ou du sud du Mexique, il fallait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pleurs. Donc c'était la règle. Donc plus les pères, il y avait des gens donc, qui étaient spécialisés dans les pleurs, on appelait ça les pleureuses, elles étaient louées par les familles qui avaient perdu un être cher, et il fallait qu'il y ait toujours 5 ou 6 pleureuses en train de hurler, s'arracher les cheveux. Alors il y avait les bonnes pleureuses et les mauvaises pleureuses. C'était assez pénible. Enfin, ce sont les coutumes. C'est pour ça qu'il fait ici, notre Seigneur parle dans son évangile d'une foule bruyante. Alors, qu'est-ce que représente cette foule tumultueuse? Eh bien, vous avez le sens mystique ici qui va être donné par les pères de l'Église, surtout par Saint Hilaire. Donc, il y a une phrase étonnante de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit très bien, c'était le. Notre Seigneur Jésus-Christ avait dit auparavant, en parlant de cette jeune fille, cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. Or, elle était morte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ a menti. En fait, il n'a pas menti du tout, mais il faut passer au sens spirituel pour comprendre ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, de même que la maladie voulait toujours symboliser chez notre Seigneur Jésus-Christ le péché, de la même façon, la mort physique représente une autre mort. C'est qu'il y a trois sortes de morts. Il y a la mort physique, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme par laquelle on passera tous. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle, qui est déjà bien plus grave. La mort spirituelle, c'est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Et la mort éternelle, qui est la plus grave de toutes. La mort éternelle, c'est le passage du temps à l'éternité en état de péché mortel. Donc c'est l'enfer. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser donc la mort corporelle, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme, pour expliquer justement qu'il y a une mort qui est bien plus grave derrière. On s'attache beaucoup, on se préoccupe beaucoup de la mort matérielle, mais on se préoccupe pas du tout de la mort spirituelle, encore moins de la mort éternelle. Eh bien, justement, notre Seigneur Jésus-Christ explique que s'il est maître de la mort physique, eh bien, il est maître aussi de la mort spirituelle. Et ils mettent de la vie éternelle. Alors voilà ce que disent les pères. Le Sauveur dit que la jeune fille n'est qu'endormie parce que ceux qui pêchent dans la vie présente peuvent encore ressusciter par la pénitence. En fait, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit retirez-vous, cette jeune fille n'est pas morte et elle dort, il parle ici de la mort spirituelle. Donc, la jeune fille qui dort, qui est extérieurement morte, mais qui dort, spirituellement parlant, c'est le pécheur qui est tombé dans le péché mortel. Donc il a perdu l'état de grâce et dans le péché mortel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dit-elle qu'elle dort? Elle dort parce que on peut réveiller quelqu'un d'un endormissement. Celui de secouer la personne ne se réveille. Bon. Et notre Seigneur Jésus-Christ explique que quand on est endormi spirituellement, donc cette espèce de dégoût de la vie spirituelle dont j'ai souvent parlé, là, ce qu'on appelle l'acédie, ou lorsque une personne a eu le malheur de tout commettre un péché mortel, il n'est pas encore mort complètement spirituellement parlant. Il est mort dans le sens qu'il est dans un état de mort spirituelle. Mais la mort spirituelle, c'est-à-dire le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel, n'est pas une mort définitive. La seule mort définitive, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire le passage de ce temps à l'éternité en enfer. Pour ceux qui meurent d'un péché mortel, malheureusement. Donc, cette jeune fille n'est pas morte et elle dort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si la personne n'est qu'endormie spirituellement parlant, c'est-à-dire qu'elle est en état de péché mortel, mais encore ici, d'ici-bas, dans ce monde, elle peut être secouée et revenir à la vie. C'est ce que dit ici Saint-Hilaire. Ceux qui pêchent dans la vie présente peuvent encore ressusciter par la pénitence. Donc, notre Seigneur va renvoyer la foule des pleureurs, des pleureuses, tu vois, pour expliquer, ne vous découragez pas, on ne pleure pas quelqu'un qui va ressusciter, on pleure quelqu'un qui est définitivement mort. Donc, vous pouvez pleurer quelqu'un qui est mort éternellement, quelqu'un qui est malheureusement tombé en enfer, on ne peut plus rien faire. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ne peut plus rien faire. puisqu'il est plus dans, cette personne n'est plus dans le temps, elle est dans l'éternité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a pas de mouvement dans l'éternité. Il y a besoin du temps pour être dans le mouvement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ dit à ces gens, ne vous découragez pas, puisqu'elle n'est qu'endormie. Ça veut dire que ça représente le péché d'une personne qui est encore vivante ici sur la terre et donc qui est réparable. Si on a un regret fervent de son péché, avec la contrition, l'accusation, la réparation, le bon Dieu pardonne. C'est la formule d'absolution. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. C'est aussi possible de pardonner un péché mortel par un acte de contrition parfaite. Et pour qu'il y ait un acte de contrition parfaite, ben, il est évident qu'il faut l'usage de la volonté. Bon. Donc, une fois que la mort éternelle est arrivée, c'est-à-dire une fois que la personne est morte d'un état de péché mortel, il n'y a plus d'usage de la volonté, puisqu'on n'est plus dans le temps. Et donc à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Donc en gros, si vous voulez, notre Seigneur et les pères de l'Église vont dire, pleurez ceux pour lesquels on ne peut plus rien faire, mais ne pleurez pas ceux qui vont ressusciter d'entre les morts. Notre Seigneur dit au sens mystique, entre dans la maison du chef de la synagogue, c'est-à-dire dans la synagogue elle-même, au moment où les cantiques de la loi font entendre en son honneur des chants funèbres. Donc, si vous voulez, ça représente beaucoup, beaucoup de représentations mystiques derrière. C'est-à-dire que cette jeune fille qui est morte, qui est la fille du chef de la synagogue, le chef de la synagogue représente l'Ancien Testament. Bon. Et la résurrection de cette jeune fille montre le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament après la résurrection de notre Seigneur. Jusqu'à ce jour, la jeune fille repose morte dans la maison de son père et ceux qui paraissent être les maîtres sont les joueurs de flûte qui font entendre des airs lugubres. D'accord. Donc, Saint Jérôme dit, la foule des Juifs n'est pas le peuple des croyants, c'est une foule tumultueuse. Mais lorsque la plénitude des nations sera entrée, alors tout Israël sera sauvé. Donc ça, c'est la prophétie de Saint Paul aux Romains, chapitre 11. Donc, qu'à la fin du temps, il y aura un reste d'Israël qui sera sauvé. Donc, c'est très compliqué d'arriver à comprendre exactement ce que veut dire ce texte. Un reste d'Israël sera sauvé. Est-ce que ça veut dire que tout Israël sera sauvé, qu'il y aura la conversion des Juifs? On pense que oui, d'une certaine façon, parce que les pères de l'Église parlent tous comme signe de la fin des temps, la conversion du peuple juif. Alors, ça, c'est très important à connaître, parce que souvent, les gens nous disent, c'est un peu une manie chez les traditionalistes, de parler de la fin du monde. Bon, ils imaginent tous que la fin du monde va arriver demain matin, et pour eux, on est dans les derniers temps, j'ai entendu ça très souvent, et les gens vont nous dire, monsieur l'abbé, on arrive à la fin, c'est la fin du monde qui arrive. Mais attendez, un des signes de la fin du monde, c'est la conversion des Juifs. Alors, s'il y a des gens qui ont vu ce signe, très bien, on en parle, mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, on n'est pas du tout forcément à la fin du temps, parce que justement, au moment de la fin des temps, parce que ceci n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, et notre Seigneur Jésus-Christ, par les pères, nous explique donc qu'il ne faut pas craindre la mort physique, il faut craindre la mort spirituelle. Bon. La mort spirituelle n'est pas définitive, il n'y a que la mort éternelle qui est définitive. Mais la mort spirituelle est l'image de la mort spirituelle, de la mort éternelle, pardon. Donc celui qui ne se préoccupe pas de ressusciter de la mort spirituelle va vite tomber dans la mort éternelle. C'est le passage, si vous voulez, d'un péché accidentel, je dirais. Une personne qui vit habituellement en état de grâce, qui a le malheur de commettre un péché mortel, il faut qu'il aille se confesser plus tôt et il ressuscite d'entre les morts. Et si on ne s'occupe pas de cette résurrection spirituelle en allant se confesser au plus tôt, eh bien, on risque de tomber non plus dans un péché accidentel, mais un péché d'habitude, ce qu'on appelle le vice. Et le vice est vraiment beaucoup plus difficile à déraciner. Saint Grégoire le Grand, bas de la page 33 sur le polycopier. La foule est mise dehors avant que la jeune fille ne soit ressuscitée, car tant que la multitude des intérêts temporels n'est pas chassée des plus secrètes parties du cœur, l'âme qui est morte au-dedans ne peut ressusciter. Ça veut dire quoi? Là, c'est une autre interprétation de Saint Grégoire, qui dit donc que le bruit que font ces pleureuses représente les bruits du monde. Et donc, pour pouvoir ressusciter d'une mort spirituelle, il faut commencer par mettre le monde dehors, pour pouvoir avoir le silence, et à ce moment-là, être capable d'écouter le bon Dieu qui, par des gémissements ineffables, demande notre conversion à son Père. Page 34, en haut de la page. Je rappelle que c'est le deuxième polycopier, le polycopier des chapitres 6 à 10 de saint Matthieu, page 34. Encore un père de l'Église, Rabban mort. Donc, notre Seigneur ressuscite cette jeune fille dans la maison en présence d'un petit nombre de témoins. Le jeune homme en dehors de la porte de la ville et Lazare devant un grand nombre de spectateurs parce qu'une faute publique exige un remède public. Tandis qu'une faute légère peut être effacée par une pénitence secrète et plus douce. Et on va voir toute une série de textes splendides des pères de l'Église qui vont comparer les trois résurrections. Et là, donc, la résurrection de la jeune fille, la fille du chef de la synagogue, est une résurrection qui va avoir lieu en privé. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ ne garde avec lui, ne va garder avec lui que les parents, seuls. Dans un autre texte parallèle, on parle de Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Donc, il a mis toute la foule dehors. À ce moment-là, cette résurrection devient donc une résurrection privée. Résurrection privée, pourquoi? Parce que le péché est privé. C'est le symbole du péché. Donc la mort de cette jeune fille, qui est une mort privée, est un péché privé. Donc à péché privé, résurrection privée. Quand quelqu'un commet une faute grave qui est privée, eh bien, il n'y a pas à faire la déclaration à toute la ville, c'est évident. Et donc, du moment qu'il regrette son péché, le prêtre donne absolution et ressuscite d'entre les morts. Si au contraire, le péché est public, c'est le cas, on va voir après avec les autres textes des pères de l'Église, c'est le cas qui est symbolisé par la mort de Lazare, donc il va ressusciter que 4 jours après la mort. Là, notre Seigneur Jésus-Christ va opérer une résurrection publique. Il faut bien expliquer que quand un péché mortel est devenu un péché d'habitude, un vice avec des conséquences graves pour la société, parce que tout le monde peut voir ce vice, eh bien, il est évident que la réparation doit être publique. Donc c'est la règle, à péché privé, réparation privée, à péché public, réparation publique. C'est surtout le cas pour tous les péchés contre la justice, qui sont des péchés contre, les péchés contre la justice, qui exigent une réparation. Encore une fois, il faut voir un petit peu au cas par cas, et là encore une fois, il faut que nos fidèles fassent un petit peu attention, pour bien distinguer ces cas qui sont tout à fait distingués par les pères de l'Église eux-mêmes. Parce qu'on entend encore une fois des grosses bêtises sur le sujet. Il faut bien distinguer entre les péchés privés, les péchés et les péchés publics. J'en parle un petit peu maintenant, mais que ce soit bon, c'est quand même un peu le sujet de ce texte de l'Évangile, parce que on entend beaucoup de bêtises sur ce sujet de la part de laïcs et malheureusement aussi de prêtres. Et à des prêtres, je ne veux pas donner de nom, mais un groupe de prêtres qui, par exemple, estiment que si une personne est divorcée, systématiquement, elle ne peut pas, elle refuse le sacrement à cette personne. Bon. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas parce que quelqu'un est divorcé que cette personne est dans le péché. Moi, j'ai déjà eu un exemple que j'ai déjà souvent donné dans les cours, mais je redonne parce que j'en parle ici. Quand je suis arrivé à El Paso, on avait une chapelle à Ciudad Juarez, et j'avais remarqué une femme, une dame déjà d'un certain âge, qui était une femme qui semblait une femme très pieuse, qui avait la messe dans son salon. Il y avait pas mal de monde, elle communiait jamais. Donc au bout d'un certain temps, quelques dimanches, je me suis approché en lui disant, écoutez, je m'excuse, mais je vois que vous communiez jamais, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Elle m'a dit, même si l'abbé, je suis divorcé, donc je ne peux pas communier. Je lui ai dit, mais attendez, vous vivez toute seule ou non? Elle m'a dit, oui, je vis toute seule, mon mari m'a abandonné, il est parti avec quelqu'un d'autre. Mais attendez, ça c'est le péché de votre mari, c'est pas le vôtre. Ah oui, monsieur l'abbé, on est divorcé, elle m'a dit qu'un divorcé ne pouvait pas communier. C'est faux. C'est un divorcé remarié, il ne peut pas communier. Mais un divorcé qui est un divorcé, si vous voulez, qui a provoqué le divorce et qui refuse d'arranger les choses alors qu'il pourrait le faire, c'est autre chose, là il est coupable. Mais si la plupart du. Enfin, ça arrive régulièrement qu'il y ait des cas de divorce où la personne divorcée n'est pas responsable de son divorce. Dans ce cas-là, c'était pas le cas, par exemple. Alors, l'exemple que je donne, donc j'expliquais à cette dame, mais attendez, votre mari vous a abandonné, il est parti avec une autre, c'est lamentable, mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas vous qui avez provoqué ce divorce. Et elle me dit, je lui ai demandé, c'est arrivé il y a combien de temps? C'est arrivé, je ne sais plus combien d'années, une dizaine, une quinzaine d'années. Je lui ai dit, vous allez simplement faire une bonne confession générale et vous pouvoir recommuner. Bon. Il y a des prêtres, un groupe de prêtres dans la tradition en Europe qui prétend que toute personne qui est divorcé est ipso facto un pécheur public. Et donc, il faut, disent-ils, refuser la communion et les sacrements à un pécheur public. Et donc, ils ne donnent jamais la communion, refusent la communion à toute personne divorcée. C'est faux. On n'a pas le droit de dire que toute personne divorcée est un pécheur public. Un pécheur public, c'est une personne divorcée, remariée. Donc, si c'est fait vu au-dessus de tout le monde, oui, c'est ce qu'on appelle un pécheur public. Donc, il faut connaître ces règles, dans les règles que les prêtres ont apprises au séminaire, qui sont extrêmement importantes. Donc, un péché privé, réparation privée. Péché public, réparation publique. Je vais donner quelques exemples pour vous comprendre ce que je veux dire. Bon, imaginez une personne qui a commis une faute grave. Bon, elle ne peut pas communier, c'est absolument évident. Bon. Tant qu'elle est ce qu'on appelle un pécheur privé, donc il suffit d'une réparation privée. Si elle regrette son péché, elle répare les erreurs qu'elle a pu faire, elle peut communier. D'accord ? Si c'est une personne... Qu'est-ce que c'est qu'un pécheur public ? Un pécheur public, c'est une personne qui est publiquement en état de péché mortel. Bon. Il peut y avoir des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou de façon privée. C'est-à-dire, imaginez, je sais pas, je prends un exemple. Imaginez une personne qui vit en concubinage avec une femme depuis 15-20 ans. Bon. Mais personne ne le sait dans la paroisse. Tout le monde croit qu'ils sont mariés légitimement. J'ai vu des cas comme ça souvent. Bon, et tout le monde croit que ces deux personnes sont mariées légitimement devant Dieu. En fait, ils ne le sont pas. Bon. Le prêtre seul le sait. Bon. Professionnel, le prêtre, en parlant avec ces personnes, cette personne, le monsieur et puis la femme, a découvert que ces personnes ne sont pas mariées. Bon. Mais il sait que ces deux personnes ne sont pas mariées, mais font, par exemple, pour certaines circonstances, sont déjà des personnes d'un certain âge, font chambre à part. Vraiment chambre à part, ils vivent dans deux chambres différentes dans la maison. Ils ont un âge déjà assez avancé. Et personne d'autre que le prêtre ne sait que ces personnes vivent comme frères et sœurs. Bon. Est-ce qu'ils peuvent recevoir les sacrements publiquement ? Oui. Et de façon privée ? Oui. Pourquoi ? Parce que publiquement, personne ne connaît leur situation. Maintenant, supposez que la chose vienne à être sue, que quelqu'un a parlé ou une autre raison. Donc les gens de la paroisse découvrent, ces deux personnes déjà d'un certain âge, qu'on croyait mariées depuis 20-30 ans, en fait ne sont pas mariées et vivent sous le même toit. Bon. À ce moment-là, le péché de privé devient public. Le péché, il n'y a même plus de péché, puisque ces gens vivaient comme frères et sœurs, donc il n'y avait plus de péché. Mais il peut y avoir un scandale public, lorsque les gens découvrent que ces personnes, en fait, ne sont pas mariées. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement, à partir du moment où ça devient public, la situation devient publique, tout le monde découvre que ces personnes que l'on croyait mariées ne sont en fait pas mariées et vivent ensemble. Et donc, on doit, au moment où c'est découvert, pour éviter le scandale, on va demander à ces gens de ne plus communier. Mais immédiatement, on va leur expliquer, ce que vous allez faire maintenant, il va falloir que vous révéliez aux gens de la paroisse que vous vivez comme frères et sœurs depuis 20 ans. Pour que ce scandale puisse être déposé. Mais, donc il faut faire attention à ça. Quand un pécheur, il peut y avoir des gens qui vivent dans le péché jusqu'au cou, mais seul le prêtre le sait. Deux personnes, par exemple, vivent en concubinage depuis 20 ans, ils vivent maritalement depuis 20 ans, ils vivent en concubinage jusqu'au cou, le prêtre seul le sait. Cette personne vient se confesser. Il n'accuse pas ce péché de concubinage. Il manifestement ne regrette pas du tout de vivre comme époux avec une personne qui n'est pas son épouse. Le prêtre ne peut pas donner l'absolution. Parce que cette personne vit dans le péché. Donc le prêtre doit refuser l'absolution à monsieur et à madame dans les confessions. Confession, qui veut dire qui dit confession, dit confession privée, évidemment. Confession, par définition, c'est privé. Bon, mais ces personnes que tout le monde croit mariées, qui vivent maritalement, s'approchent du banc de communion. Donc la personne, le prêtre vient de refuser la communion à monsieur et à madame parce qu'ils vivent un péché mortel. Ils ne veulent pas changer. Après, le prêtre célèbre la messe. Ces deux personnes se présentent à bouche en cœur au banc de communion. Est-ce que le prêtre peut leur refuser l'absolution ? Est-ce que le prêtre peut leur refuser l'absolution ? Oui. Est-ce que le prêtre peut leur refuser la communion publiquement ? Non, parce que ce sont les pécheurs privés. Ils vivent un péché mortel jusqu'au cou, de façon privée. Donc, le prêtre le prêtre, qui seul est au courant de cette situation, doit leur donner la communion. À regret, mais il ne peut rien faire. Il n'a même pas le droit de les regarder avec un regard noir. Il doit leur donner la communion parce qu'il n'a pas le droit de transformer un péché privé en péché public. C'est absolument interdit. Et alors, attention, un autre règle qu'il faut aussi connaître, c'est que si une personne, ce prêtre qui vient de refuser la communion, l'absolution à quelqu'un, parce que cette personne vit dans le péché mortel, elle ne veut pas sortir de cet état de péché mortel, et le prêtre quitte le confessionnal, cette personne à qui il vient de refuser l'absolution s'approche de lui en disant « Mon père, je souhaiterais communier, s'il vous plaît. » Est-ce que le prêtre doit donner la communion ? Réponse, oui. Parce que s'il dit non, il viole le secret de confession. Le prêtre n'a pas le droit, même en privé, attention, pas oublier ça, hein, le prêtre n'a jamais le droit, même en privé, d'utiliser la science de la confession pour refuser le sacrement de quelqu'un. C'est toujours un pécheur privé. La science du confessionnal est une science totalement secrète. Le prêtre n'a jamais le droit de l'utiliser à l'extérieur. Donc le prêtre doit dire, très bien, je vous donne la communion. Alors qu'il sait très bien que c'est une communion sacrilège. Oui, donc il faut faire attention, on a souvent des gens dans la tradition, c'est des vacantistes, des gens qui prétendent tout savoir, des laïcs, qui prétendent tout savoir et qui disent c'est un scandale, ce prêtre donne la communion à telle personne et ils ne se rendent pas compte que parfois cette personne, en fait, est divorcée, mais elle vit toute seule. Elle vit toute seule, elle ne vit pas dans le péché, donc elle doit recevoir le sacrement. Il suffit simplement que le scandale soit ôté, il faut expliquer à ce moment-là, cette personne est divorcée, son mari l'a abandonnée, mais elle vit toute seule, donc elle peut recevoir le sacrement. On n'a absolument pas le droit de refuser la communion et les sacrements, quelqu'un qui est divorcé, si ce n'est pas la faute de la personne. Même dans un cas où il peut y avoir un divorce coupable, mais si les personnes vivent de façon indépendante et vivent toutes seules, sans qu'il y ait une relation charnelle, parce que ces personnes ne se voient plus, le monsieur est parti avec je ne sais pas trop qui, madame est partie, et madame vit toute seule par exemple, mais c'est le même cas dont j'ai déjà parlé, du moment qu'elle vit toute seule, qu'elle ne vit pas dans un état de péché, elle peut recevoir les sacrements. Saint Jean Chrysostome, donc on revient au texte des Pères de l'Église, page 34. Saint Jean Chrysostome ajoute que le Christ, par cette expression « Eldor », montre qu'il fut pour lui aussi facile de ressusciter un mort que de réveiller une personne endormie. Il ne nous faut donc pas craindre la mort, car quand il s'approche, notre Seigneur s'approche, ce n'est plus pour nous la mort, mais le sommeil. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ donne un ordre à cette jeune fille, il prit la main de la jeune fille, et elle se lève. Miracle. Donc, pour bien montrer que là, s'il est facile, notre Seigneur Jésus-Christ peut ressusciter un mort spirituel de la même façon, avec autant de facilité qu'une personne peut réveiller une personne endormie. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, anthropologiquement, au sens moral, donc Saint Grégoire, petite variante dans ses explications, pour que l'âme du mort puisse ressusciter, il faut rejeter de notre cœur la multitude des soucis mondains. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ renvoie la foule. Lorsque la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Donc la foule tumultueuse représente ici la multitude des soucis mondains. Symboliquement, quand les moqueurs méprisants étaient chassés, le Christ entre dans l'esprit des élus. C'est-à-dire qu'il faut, que le terrain soit libre pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans une âme. Et, je pense souvent à une comparaison pour expliquer. Quand je prêche les exercices Saint-Ignace, imaginez une maison qui est habitable, mais on ne peut pas rentrer dans la maison parce qu'il y a un énorme buisson de ronces devant la maison. Tout le jardin a été laissé inculte pendant 25 ans, alors il y a des ronces partout. Bon, on voudrait bien rentrer dans la maison, on ne peut pas, la maison est vivable, la maison est propre, mais on ne peut pas y rentrer parce qu'il y a des buissons partout, des buissons ronces partout. Il faut d'abord commencer par faire un passage, couper les ronces pour qu'on puisse rentrer dans la maison. Donc après Saint-Hilaire, le petit nombre des élus peut être compris à partir de la multitude qui est rejetée. Ça, c'est l'évangile de dimanche dernier, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc l'Église a toujours enseigné ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. C'est surtout à partir de la phrase de l'évangile très connue. Large est la porte qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui la prennent, et étroite et resserrée, la porte qui mène à la vie éternelle. Large est la porte qui mène à l'enfer, à la mort éternelle, nombreux sont ceux qui la prennent, étroite et resserrée, la porte qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Donc, ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. Ça veut dire, le nombre des élus est très grand en soi, mais par rapport au nombre de personnes qui se damnent, il y a plus de personnes qui se damnent que de personnes qui se sauvent, surtout actuellement. Et c'est là ce que disait un exemple que donne Saint-Hilaire, le petit nombre des élus peut être compris à partir de la multitude qui est rejetée. Allégoriquement, donc c'est l'Église qui est ici représentée. La femme avec la perte de sang, donc c'est les deux miracles qui se passent en même temps, en fin de compte. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, quand il va à la maison du chef de la synagogue, va guérir cette femme, qui était une femme qui avait une hémorragie interne depuis, elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, en allant faire le miracle de la résurrection de la fille du chef de la synagogue, va aussi faire ce miracle pour cette femme qui touche la frange de son vêtement. Alors voilà ce que disent les pères. La femme avec la perte de sang qui reçoit la guérison et le salut de l'âme avant la fille de la synagogue. Les Juifs désignent le peuple des gentils, car une fois que tous les gentils seront entrés dans l'Église, les Juifs se convertiront, seront sauvés à la fin du monde. Donc ça, c'est l'enseignement de Saint Paul, mais aussi de Saint Hilaire, Saint Ambroise, Saint Jérôme, entre autres. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est comme ça qu'il faut expliquer, notre Seigneur Jésus-Christ va vers la synagogue, vers le fils, la fille du chef de la synagogue. La synagogue représente évidemment le peuple juif, mais sur le chemin, donc, ils vont se faire littéralement court-circuiter par le peuple des gentils qui va arriver avant eux. Et c'est le symbole de la femme avec une perte de sang qui va être guérie par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'autres pères disent que Jaïr, c'est le nom, la tradition nomme le chef de la synagogue, qui s'appelait Jaïr. C'est Moïse contemplant le Seigneur sur le point de prendre l'humanité qui prie pour sa fille, la synagogue, laquelle, élevée par la loi et les prophètes, languit dans l'erreur, avec une faute d'orthographe, j'ai déjà corrigé sur le polycopier, morte dans le péché, mais toujours dans la maison, l'adoration de Dieu. Puis Saint Jérôme, jusqu'à ce jour, la synagogue est morte. Et ceux qui prétendent être ses maîtres, les rabbins juifs, ne sont que des joueurs de flûte, des ménestrels chantant un chant lugubre. C'est représenté par les pleureuses. Les Juifs ne sont pas une multitude des croyants, mais un peuple qui fait du bruit. Donc il va falloir que ce peuple arrête de faire du bruit, c'est le symbole, encore une fois, de l'arrêt des esprits du monde, pour pouvoir commencer à réfléchir, demander pardon, se convertir, et à ce moment-là, ils vont pouvoir profiter de la résurrection, que notre Seigneur Jésus-Christ va opérer sur le peuple juif. Alors, tropologiquement, donc on avance dans ces explications des pères, des textes très beaux ici des pères d'Église. La femme avec la perte de sang et la fille de Jaïr ressuscitée des morts représentent toutes les deux l'âme dans le péché que le Christ ressuscite de la mort du péché à la vie de la grâce. Donc la mort physique représente la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort de l'âme. Mais il importe que les amis ménestrels sortent, c'est-à-dire les compagnons dépravés, les mauvais esprits, car ils endorment l'âme avec leurs chansonnettes et la maintiennent dans le péché. Ils lui font des suggestions flatteuses, lui chantant que le péché n'est pas mortel, qu'il faut être indulgent avec la jeunesse, qu'elle pourra toujours faire pénitence une fois devenue vieille, etc. Ça, c'est tout le travail du démon qui va tout faire pour empêcher les gens qui sont à l'extérieur de la maison de rentrer dans la maison et demander leur guérison entre le Seigneur Jésus-Christ. C'est le symbole du démon. Et le démon est très très efficace pour faire ça. Il utilise toujours deux torpilles. Le père Bariel qui utilise cet exemple, j'aime bien son exemple, il disait le démon utilise deux torpilles, il parlait des confessions générales de retraite, il disait le démon va utiliser deux torpilles, surtout que les personnes qui ne sont pas confessées depuis des années, première torpille c'est plus tard, deuxième torpille ailleurs, je vais me convertir mais pas maintenant, plus tard, donc je ferai une retraite plus tard, là j'ai vraiment pas le temps celle-là, donc je m'en vais, je reviendrai plus tard. Première torpille, deuxième torpille ailleurs. Oui, mais là, cette retraite, oui, c'est bien, mais je vais aller faire avec la retraite plus tard avec un autre prêtre qui a plus d'expérience. C'est plus tard ailleurs, plus tard ailleurs, plus tard ailleurs. Et puis, on attend, les gens finissent par mourir comme ça. Donc, le démon est très, très efficace pour pousser les gens à attendre. faut pas attendre. Hein. Imaginez, c'est un exemple que je donne souvent, imaginez monsieur qui rentre le soir chez lui, et puis sa femme lui dit, il y a une odeur de gaz dans la cuisine. Alors monsieur rentre dans la cuisine, mais évidemment, il y a une fuite de gaz. Bon, il va pas dire à sa femme, bon, alors ça va, je suis fatigué. Hein. Donc on va dormir tranquillement, puis demain je m'occuperai de la fuite de gaz. Non, la fuite de gaz c'est important, si on l'occupe tout de suite, que la maison ne saute pas pendant la nuit. Mais là c'est pareil, vous voyez. Donc on n'attend pas, il faut bien que les gens comprennent, pour un prêtre, la confession c'est sacré. Hein. Je me rappelle quand j'étais prieur dans la fraternité Saint-Bélis, j'insistais énormément pour que les prêtres soient disponibles n'importe quand. Hein, que les prêtres devaient... même si tu es en train de manger, j'ai interrompu mon repas pour aller entendre une confession qui sonnait à la porte, parce que je me disais toujours, on ne sait jamais, peut-être que cette personne ne pourra jamais revenir. Je me rappelle une fois une sérieuse discussion avec un prêtre qui est plus âgé que moi, mais j'étais son supérieur quand j'étais à la fraternité Saint-Pilice, qui m'a dit, mais il faut demander à cette personne qui veut se confesser maintenant, elle nous dérange pendant le repas, qui revient dans l'après-midi. Je lui ai expliqué, cette personne travaille. Elle a une heure de tel battement pendant de midi à une heure. Et donc elle peut venir se confesser qu'à cette heure-là. Bon. Et vous n'avez pas le droit de refuser d'entendre la confession de quelqu'un qui vient se confesser parce que les sacrements ne sont pas vous. Vous n'êtes pas propriétaire de vos sacrements. Oui. Donc, attention à ça. Donc, le démon fait des suggestions flatteuses, disent les pères, lui chante une espèce de berceuse pour l'endormir, disant que le péché n'est pas mortel, qu'il faut être indulgent avec la jeunesse, qu'elle pourra toujours faire pénitence une fois devenue vieille, etc. Ça, c'est l'église de Vatican II. Alors, moi, j'ai eu des cas, je ne sais pas combien, dans ma vie de prêtre, de prêtres de Vatican II, qui disent à deux jeunes qui vivent dans le concubinage, qui commencent à envisager une conversion, une séparation, pour vraiment faire les choses correctement. Et le prêtre de l'église de Vatican II leur dit, mais non, voyons, restez comme ça, vous pouvez très bien vivre comme ça pendant un certain temps, et puis vous vous marierez plus tard. Le dernier mariage que j'ai fait ici, c'était comme ça. Les deux personnes que j'ai mariées, le curé moderne leur a dit, vous n'avez pas besoin de vous marier maintenant, vous vivez tranquillement ensemble, et puis plus tard, quand vous serez vraiment sûr de vous, on va faire une petite bénédiction maintenant, et puis plus tard, on fera un vrai mariage. On vous connaît très bien, vous êtes sûr que vous êtes fait pour vivre ensemble, on vit ensemble tranquillement. Et la jeune fille, qui était catholique, lui a dit, mais ça ne s'appelle pas du concubinage, ça? Non, 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 maintenant c'est accepté. C'est exactement ce que disent ici les pères, suggestion flatteuse, lui chantant une ritournelle, disant que le péché n'est pas mortel, qu'il faut être indulgent avec la jeunesse, qu'elle pourra toujours faire pénitence une fois devenue vieille, etc. Et un sermon magnifique, il faut que je le retrouve, je l'ai quelque part sur mon ordinateur, un sermon magnifique de Saint Léonard de Port-Maurice sur la question. À son époque, il a fait un sermon splendide. C'était un grand missionnaire, Saint Léonard de Port-Maurice, il prêchait surtout au peuple. Et donc il expliquait justement comment le démon travaillait, et donc il racontait l'histoire d'un père de famille qui est au café, en train de prendre un café avec ses amis, et puis quelqu'un vient le prévenir, vous savez, votre fils, qui a 18 ans, là, il fait beaucoup de bêtises, il est avec un groupe de jeunes, avec des filles et tout ça, et puis il faut beaucoup de péchés d'impureté, etc., il faut quand même que vous en occupiez. Et le père répond, oh, faut quand même pas exagérer, jeunesse ça va passer, donc s'il est jeune, il faut bien qu'il fasse un peu l'expérience de la vie, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Bon. Et puis moi je reprends souvent, c'est moi, j'ai un peu changé les termes de Saint Léonard de Port-Maurice pour que les gens comprennent mieux. Et puis une demi-heure plus tard, il y a un autre monsieur qui vient voir le père de famille qui est attablé en train de prendre le café avec ses copains en disant, je voudrais pas vous déranger, mais votre fils, il a volé votre carte de crédit, et il a trouvé le code. Et il est à la banque, en train de, distributeur automatique de la banque, en train de vider votre compte, là, vous voyez. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave, ça peut attendre, hein, il faut que vous en occupiez un peu avant la fin de la semaine. Et évidemment, le père de famille va se lever d'un bond, il va filer à la banque pour bloquer l'argent de son compte. Donc, si c'est le fils qui vient en péché mortel, c'est pas grave, mais quand on touche à son argent personnel, là, ça devient grave. J'en souviens cet exemple, c'est un exemple en fait de Saint-Léonard de Port-Maurice. Lui, il ne parlait pas de carte de crédit, il parlait, je ne sais plus quel exemple il donnait, mais c'est un peu la même idée. Donc le Christ touche cette âme, par son puissant pouvoir, il la prend par la main, lui donne la vie et la ressuscite de la profondeur de la mort au sommet de la vie. Elle doit maintenant marcher. Le texte. Lorsque la foule eut été renvoyée, notre Seigneur entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Voilà l'explication des pères. Donc, le Christ touche cette âme, il la prend par la main. C'est par son puissant pouvoir divin, il lui donne la vie et la ressuscite de la profondeur de la mort au sommet de la vie. Il détruit la mort spirituelle, donc la mort du péché, pour la rendre à la vie. Elle doit maintenant marcher, c'est-à-dire faire des bonnes œuvres et manger, c'est-à-dire se nourrir de la Sainte Eucharistie pour renforcer et confirmer sa vie. Donc le texte après va dire, notre Seigneur va dire à ses parents, prenez votre fille et donnez-lui à manger. Notre Seigneur va s'occuper aussi du corps. Mais en fait, c'est qu'il y a un symbole derrière. Donc, elle est maintenant ressuscitée du péché, elle a quitté le péché qu'elle avait commis, qui la maintenait dans un état de catalepsie, c'est un état, si vous voulez, de paralysie spirituelle. Maintenant, elle est délivrée de son péché, elle peut manger, elle doit marcher, c'est le symbole des bonnes œuvres, et elle doit manger, c'est le symbole de la nourriture eucharistique, la Sainte Eucharistie. On verra ça aussi dimanche prochain, parce que c'est l'évangile de dimanche prochain, donc du père de famille qui organise le mariage de son fils. Et il y a un peu les mêmes symboles là, on verra plus tard, mais le mariage représente l'union de notre Seigneur Jésus-Christ entre sa divinité et l'humanité, l'incarnation, et le banquet représente aussi le banquet eucharistique, donc il y a deux symboles, la Sainte Eucharistie. Alors, tout est résumé ici, en bas de la page 34, j'ai mis ça en gras parce que ce sont les textes très important pour bien comprendre. J'ai résumé un peu toutes les pères. C'est pas moi de ce texte. Je l'ai trouvé dans Saint Thomas ou dans Cornelius à Lapide. Mais voilà comment les pères résument tout. Donc j'ai pas mis de nom de père parce que ça vient de plusieurs pères en fait. Donc trois miracles. La petite fille de 12 ans, fille de Jaïr, fille du chef de la synagogue. Deuxième miracle, le jeune homme, fils de la veuve de Naïm. Troisième miracle, Lazare. Donc voilà comment expliquent les pères. La petite fille de 12 ans qui ressuscite immédiatement dans la maladie. Représente la jeunesse, fervente mais sans expérience, qui par faiblesse ou infirmité tombe dans le péché. Mais elle est vite touchée par Dieu, voit sa faute, voit sa chute, se repent facilement et ressuscite. C'est le repentir de ceux qui n'ont péché que par pensée, et chez péché véniel et secret sont effacés par une contrition secrète, la jeune fille ressuscitée dans la maison. Donc, il y a plusieurs interprétations des pères là-dessus. Certains pères vont dire, c'est un péché, le péché, comme il y a mort, elle n'est pas simplement endormie, elle est morte en fait. Physiquement. Donc cette mort physique représente une mort spirituelle, donc elle est dans le péché mortel, mais ce n'est pas un péché mortel d'habitude. Bon. D'autres pères, c'est ici le texte, pensent que c'est au contraire le symbole des péchés véniels. Deuxième cas de résurrection, la veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, il ressuscite alors qu'il est porté au tombeau, donc c'est plus grave. Il symbolise ceux qui tombent de façon répétée dans le péché et sont sur le point de contracter une habitude du péché. Il est plus difficile de les ramener à la vie car ils ont besoin d'une grâce plus puissante et plus efficace. Le Christ donne l'ordre au porteur du cercueil de s'arrêter. Le touchant, il commande, « Jeune homme, je vous l'ordonne, levez-vous. » C'est le repentir de ceux qui ont péché non seulement en pensée, mais aussi en action. Ça, c'est une autre interprétation. Première mort de la fille de 12 ans, fille du chef de la synagogue, représente le péché par pensée. Bon. Deuxième résurrection, le fils de la veuve de Naïm, ça représente les péchés d'action. Donc on quitte la pensée et l'action se rajoute. Le péché est d'abord dans la pensée, 9 fois sur 10, pratiquement tout le temps. Pour qu'il y ait péché, il faut quoi? Pour qu'il y ait péché grave, il faut matière grave, plein connaissance, plein consentement. Donc comme le consentement c'est dans la volonté, donc le péché est d'abord dans la volonté et ensuite passe en action. Donc deuxième résurrection, symbole du péché d'action. Lazare, troisième résurrection, qui vit déjà dans le sépulcre depuis 4 jours, qui est appelé à sortir. Il représente ceux qui ont vieilli dans le péché. Donc là, c'est plus le péché mortel accidentel, c'est le péché mortel qui est devenu une habitude, ce qu'on appelle le vice. Ils ont besoin de la plus efficace des grâces et de l'appel de Dieu. Cela est symbolisé par des gémissements et les pleurs du Christ, qui, à haute voix, avec une faute d'orthographe, j'ai pas vu, j'ai oublié l'accent sur le A, qui à haute voix déclare Lazare, sortez dehors. C'est le repentir de ceux qui sont tombés dans les péchés d'habitude vicieuses. Comme pour le fils de la veuve de Naïm, les péchés publics demandent un remède public et le Christ les ressuscite publiquement devant la multitude. Donc, si vous voulez, la deuxième résurrection, celle du fils de la veuve de Naïm, et la troisième, celle de Lazare, sont des résurrections après des péchés qui sont des péchés et des conséquences publiques. Donc, notre Seigneur va ressusciter ces deux personnes, le fils de la veuve de Naïm et Lazare, de façon publique. Le premier péché, la petite fille de 12 ans, fille du chef de la synagogue, représente les péchés privés. Donc, on ressuscite la petite de façon privée. Son Seigneur va ressusciter de façon privée parce qu'on ne transforme jamais un péché public, un péché privé, un péché public. On n'a jamais le droit. Donc, il y a encore d'autres explications en bas de la page 34. Cette jeune fille, fille du chef de la synagogue, qui est là, gisant dans l'intérieur de la maison, représente l'âme qui est morte par suite des péchés intérieurs, des péchés de pensée auxquels elle s'est abandonnée. Donc, qui dit péché de pensée, dit péché privé. On ne peut pas deviner les pensées des autres, sauf Dieu. Péché de pensée auquel elle s'est abandonnée, il suffit donc de se plaire dans le mal pour qu'en réalité on se trouve dans le mal. Il ne faut pas croire que le péché n'est mortel que parce qu'il passe en action. Il peut y avoir des péchés mortels de pensée. Bon, c'est parfois pas toujours très évident de tracer la limite entre péché véniel et péché mortel dans ce domaine. Mais il peut y avoir des péchés mortels de pensée, c'est absolument évident. Bon. Une mauvaise pensée contre, je ne sais pas quoi, n'importe quelle vertu, mais une mauvaise pensée, par exemple, contre la foi, la charité, la pureté. Bon, et puis, une mauvaise pensée arrive, et puis vous la chassez tout de suite, il n'y a aucun péché. La mauvaise pensée arrive, puis vous jouez un petit peu avec cette mauvaise pensée avant de la rejeter. En général, il n'y a que péché véniel. La mauvaise pensée est complètement acceptée dans votre âme, vous cherchez à en tirer du plaisir, et vous préparez à faire l'action qui correspond à cette mauvaise pensée, ou vous êtes d'accord pour faire l'action qui correspond à la mauvaise pensée si l'occasion s'en présente pour vous. Vous voyez ? À ce moment-là, il y a faute grave, même s'il n'y a pas d'action. L'exemple qu'on donne au séminaire, un exemple qui est très vrai, le péché est dans l'intention, le premier péché est d'abord dans l'intention. C'est l'exemple d'une personne qui est décidée à, je sais pas moi, de se débarrasser d'un ennemi, bon, hein, ou un membre de sa famille qui veut assassiner. Bon, il sait très bien que cette personne qui va assassiner passe toujours par le même endroit, toujours, 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 toujours. Donc il attend au coin, caché derrière un arbre, il sait que cette personne va passer, il n'y a personne dans la rue, à l'heure où elle passe, donc il attend pour qu'elle passe, quand elle va passer par là, elle le tire dessus et la tuer. Bon. Mais sur là, elle change d'avis, elle ne passe pas par là. Elle passe par un autre chemin. Donc il ne peut pas la tuer parce qu'elle n'est pas passée. Et après, il revient en lui-même. Bon, il dit, finalement, j'ai vendu le bon Dieu, donc je ne vais pas l'assassiner. En fait, il est coupable d'un crime. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de le tuer. Même si ce n'est pas passé, ça ne s'est pas passé en fait. Parce que le péché est déjà dans l'intention. Dans tous ces joueurs de flûte qui sont là, sont ces adulateurs qui flattent les passions et empêchent l'âme tombée de sentir sa chute. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est quand. Puis quel est le saint qui disait c'est ces gens qui mettent des oreillers sous les coudes. Je ne sais plus bien si c'est pas une phrase de l'écriture sainte quelque part. Je ne me rappelle plus la référence. Mais j'ai vu ça quelque part. Ces hommes qui mettent des oreillers sous les coudes. Ça veut dire des hommes qui rassurent d'autres personnes dans le péché. Rien de pire. C'est ça le péché de scandale. Le péché de scandale, au sens propre, c'est ça, c'est rassurer les gens dans le péché. Hein? C'est extrêmement fréquent dans l'église de Vatican II. Moi, j'ai des tas de cas comme ça, aux retraites de gens qui viennent de l'église de Vatican II, qui, avec la grâce du bon Dieu, vont se convertir dans l'église catholique, et qui nous disent, monsieur l'abbé, les prêtres de l'église de Vatican II, pendant des années et des années, m'ont dit que je pouvais rester comme ça. Par exemple, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui me disaient, monsieur l'abbé, moi j'ai pris la pilule pendant 20 ans, alors je suis un tas de péché mortel. Je lui dis, attendez, est-ce que quand vous avez voulu prendre la pilule il y a 20 ans, est-ce que vous êtes allé voir votre curé pour lui demander si c'est autorisé par l'église? Ben oui, monsieur l'abbé, je suis allé voir mon curé et je lui ai demandé si je pouvais prendre la pilule. Il m'a dit, oui, pas de problème, depuis Vatican II, on peut prendre la pilule. Et j'ai pris la pilule pendant 20 ans. À ce moment-là, je vais poser une deuxième question. Est-ce que votre conscience vous trouble? Bon, non, monsieur l'abbé, parce que mon curé m'avait dit que depuis Vatican II, c'est autorisé, donc je ne me suis pas posé de question. Puis à ce moment-là, madame, vous n'étiez pas dans le péché mortel. C'est votre prêtre qui était dans le péché mortel, parce que lui, il savait très bien qu'il vous avait menti. D'accord? Mais maintenant que vous voulez vous convertir, Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que l'Église catholique a toujours interdit ce genre de choses. Et donc vous devez arrêter. Si je vous donne l'absolution, il faut me promettre d'arrêter d'utiliser la pilule. Vous voyez? Donc Jésus-Christ commence par les expulser, car, dit Saint Grégoire, si on ne commence à délivrer l'âme des influences étrangères, on ne pourra la ramener à la vie. Et aussitôt que le Christ prend la main de la morte, il se fait en elle une transformation, elle ouvre les yeux, elle se met à marcher, elle mange avec joie les aliments qui doivent développer en elle la vie spirituelle. Ce qu'on a déjà expliqué auparavant, là c'est le symbole, donc la marche c'est le symbole des bonnes œuvres, et les aliments qui la nourrissent sont le symbole des aliments spirituels, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie. Oui, cette page 34 est à mon avis une des pages clés des commentaires des pères de l'Église. Encore une fois, là, c'est qu'un tout petit résumé. Hein. Vous commencez à vous lancer dans les pères là-dessus, vous pouvez lire ça pendant des heures et des heures, de voir les différentes explications que donnent les pères. Et ça, là, c'est résumé. Pour résumer encore, en quelque sorte, à la suite de ce que je viens de vous dire, ce que disent les pères, donc il faut voir trois étapes. Donc chaque résurrection représente une étape dans le péché, donc une étape dans la mort. Première étape, c'est ou péché véniel, ou le péché par pensée, mais qui peut être péché mortel, mais accidentel. Deuxième étape, les péchés, et passer de la péché par pensée, du péché par pensée au péché par action. C'est les péchés qui commencent déjà à prendre racine dans l'âme, de façon plus profonde. Troisième étape, la résurrection de Lazare. Là, on n'est plus dans le péché accidentel, on est dans le vice. Dans le vice, et le vice public avait des conséquences pour la société. Donc, puisque c'est un péché public, mon Dieu doit réparer, dans le deuxième et troisième cas, le bon Dieu doit faire une réparation, obliger une réparation publique. C'est pour ça qu'il va ressusciter cette personne de façon publique. Au contraire, premier cas, péché intérieur, donc c'est péché privé, il répare de façon privée. Alors on est à la page 35, versets 27 à 31. On va voir si on peut terminer le chapitre 9. Comme Jésus sortait de là, deux aveugles le suivirent, criant et disant « Ayez pitié de nous, fils de David ». Et lorsqu'il fut venu dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse vous faire cela ?» Et lui dirent « Oui, Seigneur ». Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus les menaça en disant « Prenez garde que personne ne le sache ». Mais eux, s'en allant, répandurent sa renommée dans tout ce pays-là. Donc c'est un petit peu comprendre un peu ce que représentent ces deux aveugles. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que la résurrection, la guérison miraculeuse de ces aveugles ne soit pas rendue publique? Donc, c'est là, disent les pères, un grand sujet d'accusation contre les Juifs, page 35. Des hommes privés de la vue reçoivent la foi par l'ouïe seul, tandis que les Juifs, dont les yeux constataient la vérité de ces miracles, refusent d'y croire. Jésus veut nous apprendre à fermer la bouche à ceux qui cherchent à nous louer et à rapporter à nous seuls les louanges qu'il nous donne. Mais si ces louanges doivent se rapporter à Dieu, bien loin de les défendre, nous devons les exciter et les prescrire. Donc, si les louanges peuvent être une occasion pour nous d'orgueil, il faut les rejeter. Si au contraire, ces louanges peuvent augmenter la gloire du bon Dieu, on peut les tolérer. Bon. Alors là, on voit encore une fois, c'est un autre exemple de ce que représentent ces maladies. Donc, la cécité de personnes donc, qui s'approchent de notre Seigneur Jésus-Christ dans un acte de foi, ils ne voient rien, ils sont aveugles, mais représentent l'aveuglement spirituel. De la même façon que ceux qui sont muets représentent le mutisme spirituel et ceux qui ont la surdité, qui n'entendent pas, représentent la surdité spirituelle. Donc, il faut passer au niveau spirituel pour comprendre ces miracles. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, qui rend la lumière à deux personnes qui n'avaient jamais vu la lumière du soleil, donc représente notre Seigneur Jésus-Christ qui enlève le péché, qui maintient l'âme dans l'obscurité. Le péché étant enlevé, à ce moment-là, la lumière de la charité peut rentrer dans cet homme. Oui. C'est pareil pour Louis, c'est pareil pour le muet. Notre Seigneur Jésus-Christ qui va faire le miracle pour rendre la parole à un muet ou rendre l'ouïe à quelqu'un qui était sourd, eh bien, représente justement le changement d'une âme qui est guérie par la confession. Alors, dans le sens allégorique, ça c'est Saint-Rémy, donc en page 35, au milieu de la page, ces deux aveugles sont la figure des deux peuples, le peuple juif et le peuple des gentils, ou bien les deux fractions du peuple juif qui se séparèrent sous Roboam. Notre Seigneur Jésus-Christ choisit donc dans l'un et l'autre peuple qui croyait en lui, ceux qu'il devait éclairer dans la maison et qui est son Église, car en dehors de l'unité de l'Église, personne ne peut être sauvé. Or, ceux d'entre les Juifs qui crurent en Jésus publièrent son avènement dans tout l'univers. Donc, ces deux aveugles qui s'approchent de lui, qui font un acte de foi, qui sont guéris, représentent à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, d'après certains pères. Donc, le peuple juif qui peut être guéri à partir du moment où ils reconnaissent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que notre Seigneur leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, il faut la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième aveugle représente le peuple des gentils qui est arrivé plus tard, mais qui va lui aussi être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Autre explication, Rabban mort, la maison du chef de la synagogue, c'est la synagogue elle-même qui est soumise à Moïse. La maison de Jésus, c'est la Jérusalem céleste. Donc là, c'est le sens anagogique, c'est le symbole de l'Église aussi. Pendant que le Seigneur traverse ce monde pour retourner dans sa maison, les deux aveugles se mettent à le suivre. En effet, après la prédication de l'Évangile par les apôtres, un grand nombre d'entre les Juifs et d'entre les gentils se sont rangés sous sa conduite. Mais après son ascension dans les cieux, il est entré dans sa maison, c'est-à-dire dans son église, et de là, et là, il leur a rendu l'usage de la lumière. Vous voyez donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui guérit un aveugle, qui guérit un sourd-muet, qui guérit tous ces pauvres gens qui venaient à lui, montre, si vous voulez, que notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur l'âme. Et comme les miracles spirituels sur les âmes sont des miracles qu'on ne voit pas, donc notre Seigneur Jésus-Christ fait des miracles physiques qui se voient et donne en même temps les grâces pour que les gens comprennent que ces miracles physiques représentent quelque chose de spirituel. C'est pour ça qu'à chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ exige la foi. La foi, c'est quelque chose de spirituel. D'accord ? Alors, immédiatement après, l'autre exemple. Donc, le premier exemple, ce sera la mort de la jeune fille. Deuxième exemple, les aveugles. Maintenant, troisième exemple des muets. Lorsqu'ils furent sortis, c'est versets 32 à 35 du chapitre 9. Lorsqu'ils furent sortis, voici qu'on lui présenta un homme muet, possédé du démon. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration, disant « Jamais rien de semblable n'a été vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. » Or Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute langueur et toute infirmité. Donc, là, vous voyez, c'est comme incroyable, ce Fils de Dieu arrive, le Créateur du ciel et de la terre arrive, et on accuse d'être Belzébul, le prince des démons. Donc, Rabban mort, de même que dans le sens mystique, les deux aveugles refiguraient les deux peuples juifs et gentils, ainsi cet homme muet possédait la figure du genre humain tout entier. Muet possédé, c'est-à-dire muet n'est plus capable de parler, ça représente quoi ? La personne qui ne veut pas se confesser parce qu'il a honte de dire ses péchés. Donc le mutisme de cette personne représente la honte qui empêche le cœur de s'ouvrir au confessionnal et dire ses péchés. C'est quelqu'un qui cache ses péchés d'une façon, ou qui cache un péché grave d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ce mutisme spirituel va entraîner la possession du démon. Donc, ce mutisme spirituel, ce qui fait que cette personne n'ose pas, par une fausse honte, accuser son péché, va entraîner le fait que le démon va le posséder complètement. Et donc, le retour à une situation normale va consister à faire une bonne confession. À ce moment-là, l'homme va pouvoir parler au confessionnal et cela va chasser le démon. Page 36. On va essayer de terminer cette page 36 pour terminer le chapitre 9. Citation de Saint-Hilaire. Cet homme, à la fois muet, sourd et possédé du démon, représente le peuple des gentils. Donc là, dans l'Évangile, il n'est parlé que d'un homme muet, mais dans d'autres passages parallèles, il s'agit d'un homme sourd et muet. À la fois muet et sourd, possédé. Donc trois choses. Il est muet, il est sourd et il est possédé du démon. Donc notre Seigneur Jésus-Christ doit faire trois choses. Rendre l'usage de la parole, rendre l'usage des oreilles, de l'ouïe, et chasser le démon. Donc, Cela représente le peuple des gentils, indigne d'obtenir le salut, plongé qu'il est dans un abîme de maux, comme enlacé par tous les vices de la chair. La connaissance de Dieu ayant dissipé toutes les folles superstitions, l'homme recouvre tout à la fois l'usage de la vue, de l'ouïe, la parole du salut. Cette foule qui est dans l'admiration, c'est la multitude des nations qui confessent la divinité de notre Seigneur. Les pharisiens qui le calomnient sont une figure de l'infidélité des juifs qui persévèrent jusqu'à ce jour. Et donc on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, respecte le libre arbitre de chacun. Et on voit des cas, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle extraordinaire, on le voit très bien, par exemple, avec le miracle de la résurrection de Lazare. Notre Seigneur Jésus-Christ va au tombeau, publiquement ressuscite quelqu'un qui est dans le tombeau depuis 4 jours. Pour être sûr qu'il est mort, il sent déjà mauvais, déjà en putréfaction. Notre Seigneur Jésus-Christ donne un ordre, Lazare, sortez dehors. Notre Lazare sort. Et évidemment, un miracle pareil, on pourrait croire que tout le monde va se convertir. Ben non. Juste après ce texte de ce miracle, il est dit dans l'Évangile, les pharisiens se réunirent entre eux pour chercher un moyen de perdre Jésus. Donc notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle extraordinaire, que seul Dieu peut faire, il y a toutes les preuves de sa divinité, une partie de ceux qui ont assisté à ce miracle se convertit, gagne l'église catholique, qui vient de démarrer, et l'autre partie au contraire, qui a vu le même miracle, qui a assisté aux mêmes choses, se regroupe avec le démon pour refuser la conversion. Le Seigneur Jésus-Christ respecte le libre arbitre, c'est ça le drame. Donc, explication de Saint Rémy, le peuple des gentils était muet parce qu'il ne pouvait ouvrir la bouche pour confesser la vraie foi et publier les louanges de son Créateur. Parce que livré au culte des idoles muettes, il leur était devenu semblable. Il était possédé parce que la mort de l'infidélité l'avait soumis à l'empire du démon. Et on voit toujours les mêmes choses. Le sourd muet entraîne la surdité et le mutisme va entraîner la possession par le démon. Ceux qui sont sourds de naissance sont en général aussi muets, car ils ne peuvent entendre quoi que ce soit, ils ne sont pas capables d'apprendre les sons et des sons et des mots. Donc, encore une faute d'orthographe, je m'excuse, il y a un pomme que je n'ai pas vu. Les sons et des mots, encore moins de les prononcer. Nous n'apprenons que ce que nous entendons. Le Christ n'exige donc pas la foi dans cet homme comme il exige des autres. Parce qu'encore une fois, celui qui n'a pas eu accès à la connaissance de l'Évangile, le bon Dieu va lui demander moins qu'à celui qui a eu accès à cette connaissance. La parabole des talents. Celui qui a reçu 5 talents va devoir rendre plus que celui qui n'a reçu que 2 talents ou qu'un talent. Fin du chapitre 9. Voyant les foules, il en eut compassion car elles étaient accablées, gisaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, Saint-Hilaire explique que cet accablement, c'est là où on voit la miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon pasteur. Donc, les âmes sont accablées, gisant comme des brebis sans pasteur. Qu'est-ce que ça représente ? Cette langueur représente évidemment la langueur spirituelle, les longues souffrances, l'infirmité, les maladies les plus légères. Voilà ce que dit Saint-Hilaire. Dans le sens mystique, au moment où le salut est donné aux nations, toutes les villes, toutes les bourgades sont éclairées par l'avènement et la vertu du Christ. Le Seigneur a pitié de son peuple, tourmenté par la violence tyrannique de l'esprit impur et fatigué du lourd fardeau de la loi, car il n'avait pas encore de pasteur qui pût lui assurer la garde de l'Esprit Saint. Notre Seigneur Jésus-Christ est le bon pasteur qui remet la brebis égarée dans le bon chemin. C'est le bon pasteur qui abandonne les brebis qui sont toutes dans la bergerie, il va chercher la brebis qui s'est perdue, parce qu'elle a désobéi, elle s'est perdue, elle est dans les ronces, notre Seigneur Jésus-Christ va la chercher, elle la ramène au bercail. Le fruit de ce don céleste de la grâce était on ne peut plus abondant. Sa source féconde ne pouvait être épuisée par la multitude de ceux qui venaient y participer. Car quel que soit leur nombre, sa plénitude se répand toujours de la même manière. Comme il faut un grand nombre de ministres pour distribuer cette grâce, notre Seigneur ordonne de prier le maître de la moisson d'envoyer un grand nombre de moissonneurs pour recevoir le don de l'Esprit Saint. En effet, c'est par le moyen de la prière que Dieu répand sur nous cette grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ qui prie son Père, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donc prions pour que le Père du ciel envoie des ouvriers à sa moisson. Donc on a terminé le chapitre 9. Donc mercredi, je rappelle maintenant que le cours d'exégèse a lieu le mercredi soir. Et le cours sur Saint Thomas d'Aquin, la somme théologique, aura lieu le vendredi soir. Donc la prochaine fois, si Dieu veut, commencerons le chapitre 10. On va terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.